Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce numéro de Métropolez-vous qui va s'inscrire dans la série que nous consacrons à la biodiversité et plus particulièrement à la faune sauvage présente dans la métropole toulousaine. Je rappelle que jusqu'alors, nous avons fait un état des lieux des populations d'oiseaux et de poissons sur le territoire métropolitain. Nous avons aussi abordé la question de la nature en ville et de la nécessaire cohabitation avec la faune sauvage qui y vit. Aujourd'hui, notre intérêt va se porter sur les mammifères qui habitent ce territoire ou qui peuvent y être de passage. Il y en a de grande taille, d'autres beaucoup plus petits. Quelques-uns sont très visibles, d'autres nettement plus discrets. Et il faut savoir repérer les traces qu'ils laissent pour être conscient de leur présence dans notre environnement. Et puis, il y a aussi les dégâts que peuvent causer certains d'entre eux. Et là, nous allons être amenés à reparler de la cohabitation entre l'homme et la faune sauvage. Voilà le thème de ce numéro qui s'annonce tout aussi passionnant que les précédents. Et cette semaine, notre guide à la découverte des mammifères qui vivent dans la métropole toulousaine s'appelle Manu Jacquot. Elle est chargée d'études mammifères au sein de l'association Nature en Occitanie. Bonjour madame et merci d'avoir accepté mon invitation à vous exprimer sur ce sujet qui vous est très cher et dont vous êtes une véritable spécialiste.
Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. J'espère que je vais pouvoir intéresser et motiver tout un chacun à aller repérer les indices de présence comme vous l'avez si bien annoncé.
Lorsqu'on est chargé d'études mammifères à Nature en Occitanie, quelles sont les missions que l'on mène et sur quoi portent-elles précisément ?
Alors en fait, mon travail est d'inventorier les mammifères sauvages, donc on n'est pas sur les mammifères domestiques, donc on est vraiment sur les espèces sauvages. Donc les inventorier dans les espaces naturels et non naturels et évaluer un petit peu leur intérêt, la présence et comment on peut améliorer leur prise en compte dans les différents documents de gestion, valoriser leur présence au niveau des communes. Et puis aussi essayer de motiver, informer, sensibiliser le grand public à la préservation de cette espèce.
Et ces études, est-ce qu'elles vous sont commandées? Et si c'est le cas, est-ce que c'est l'association elle-même ou est-ce que ce sont d'autres structures comme des collectivités, des associations et pourquoi pas la fédération de chasse ou de pêche des départements sur lesquels vous travaillez?
C'est très très varié. Alors ça peut être effectivement des études commandées par les communes, notamment dans le cadre des ABC, quand ils ont un besoin d'inventorier leur patrimoine naturel et essayer de le valoriser auprès des citoyens. Ça peut être aussi au niveau de programmes nationaux, comme les plans nationaux d'action pour les espèces protégées, pour évaluer leur présence sur le territoire et quelles sont les actions à mener pour améliorer l'état de conservation de ces espèces. Ça peut être de manière inversée des motivations de citoyens qui viennent à l'association avec un projet pour préserver une espèce en particulier et auprès desquels on va apporter un soutien et un suivi sur ces projets particuliers. Donc ça peut être vraiment divers et variés. Et donc quand c'est des projets qui émanent de l'association, ce sont plutôt des projets spécifiques comme par exemple le chat forestier ou le suivi du cobaye amphibie ou du putois, où là on va vraiment mettre en place un panel d'actions sur le territoire pour aller chercher ces espèces et essayer de mettre en place des actions de préservation. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment très, très varié.
De manière générale, et là on en arrive au vif du sujet, quelles espèces de mammifères ou familles d'espèces de mammifères habitent le territoire de la métropole toulousaine, et ce peut-être aussi en fonction des types d'espaces que l'on trouve sur le territoire en question?
Eh bien, en fait, on va tous les avoir quasiment. Simplement, on va plutôt... Alors, les mammifères, la différence avec les autres groupes d'espèces, c'est que pour la plupart, ils ont des territoires qui sont assez vastes. Et on va plutôt parler de spécialistes et d'espèces plus généralistes, avec un terme plus complet qui s'appelle les ubiquistes. Donc, en fait, ce sont des espèces qui ont une capacité de s'installer sur des habitats très, très différents. Typiquement les rongeurs ou le renard, voilà, pour avoir un exemple très facile. Donc, ce sont des espèces qui sont capables d'utiliser des milieux très très différents et en fonction de la disponibilité de s'installer sur l'un ou sur l'autre. On va avoir des espèces qui sont plutôt spécialistes, comme les espèces semi-aquatiques ou les espèces forestières qu'on va retrouver sur la Garonne ou au niveau des ripisylves ou sur le bois de Boucone, qui sont, elles, plus spécialisées, plus inféodées à la présence de l'élément arboré. Donc, on va avoir typiquement la martre ou la genette ou la plupart des chauves-souris. Le chat forestier aussi, mais lui, il n'est pas encore présent dans la métropole toulousaine. Mais donc, voilà, on va plutôt avoir cette dichotomie de spécialistes et de généralistes qui vont permettre de réfléchir à la répartition spatiale de ces espèces sur la métropole.
Quelles sont les espèces ou familles d'espèces, encore une fois, de mammifères sauvages qui sont les plus représentées dans la métropole toulousaine? On va commencer par les plus grands mammifères, et là je pense aux sangliers et aux cervidés. Est-ce qu'on en a vraiment beaucoup sur le territoire de la métropole toulousaine?
On n'en a pas plus qu'ailleurs, simplement ils sont très visibles. Donc du coup, les sangliers cervidés, la problématique de ces espèces-là, c'est qu'elles ont on parlait tout à l'heure de territoire, elles ont un immense territoire. Et la difficulté, c'est qu'elles sont régies par leur capacité à utiliser ce territoire pour s'alimenter, trouver des partenaires et la prédation. Et ces espèces-là n'ont quasiment plus de prédateurs. Donc le fait qu'on les voit, c'est dû à ces deux éléments-là. Le fait de ne pas avoir de prédateurs et donc d'avoir une répartition qui est plus large, et à la fragmentation due à l'urbanisation qui fait qu'elles se déplacent difficilement et qu'elles sont assez visibles. Après, elles n'ont pas une présence, c'est pas les espèces qui ont une présence la plus forte. Les espèces qui ont la présence la plus forte, c'est les rongeurs. Indéniablement, ça sera toujours les rongeurs. Simplement, elles sont invisibles. Mais celles auxquelles on va penser le plus, ça va être les rats et les souris, qui, elles, typiquement, sont associées à l'espèce humaine et donc aux habitations. Donc là, c'est sûr, on pense tout de suite à ces espèces-là. En fait, on va avoir tous les rongeurs. Tous les rongeurs, les campagnols, passant des campagnols des champs ou l'Hérault, au Loire. Et après, on va avoir une espèce qui est un petit peu plus sympathique, comme l'écureuil, qui est aussi un rongeur, qui va être bien présent dans les parcs et jardins et qui fait plutôt le bonheur et le ravissement des personnes qui se baladent. Mais voilà, toutes ces espèces qui sont des rongeurs sont bien plus présentes.
Alors, je pense à d'autres espèces qui, me semble-t-il, peuvent être représentées sur le territoire métropolitain, en tout cas dans certaines communes, ce sont les lièvres et les lapins de Garenne. Est-ce qu'on en trouve encore?
Ah oh oui, lièvres. Alors, les lapins sont beaucoup plus fragmentés, ils sont répartis, ils sont vraiment plus localisés. Les lièvres, en revanche, sur l'espace qui est le nôtre, ils sont très très bien répartis, notamment en zone rurale. Peut-être moins dans la partie urbaine, mais dès qu'on va rentrer dans l'espace campagnard, on va dire. Donc oui, eux, ils sont très présents, effectivement.
Autres espèces auxquelles je pensais, c'est celles qu'on regroupe parfois dans les campagnes sous le nom de sauvagines. Je pense à des petits prédateurs ou moyens prédateurs terrestres. Vous avez parlé des renards, mais il y a aussi les martres, les fouines, le putois, les belettes. Tout cela, on les trouve?
Alors, on va les retrouver de manière très différente. Le renard, ça va être celui qui va utiliser les espaces les plus diversifiés. Donc, on va retrouver un petit peu de manière homogène un peu partout. Pas trop dans le centre urbain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcs et jardins qui sont connectés, donc du coup, ça ne favorise pas sa présence. La plupart des gens ont déjà entendu parler des renards en ville, comme à Nantes ou en Angleterre. Chez nous, en Toulouse, c'est moins le cas, parce que les parcs et jardins sont assez déconnectés entre eux, donc il n'y a pas de corridor comme ça très efficace pour lui permettre d'être présent. La fouine, la martre, elles vont avoir une répartition beaucoup plus fragmentée. La martre est un petit peu plus liée à l'espace boisé, même si elle est plus largement répartie que ça. La fouine est en léger déclin, donc on la contacte un petit peu moins, on la retrouve un petit peu moins. On va dire qu'elle pâtit encore de son statut d'espèce, alors on dit plus nuisible, mais d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts. C'est de la sémantique, mais ça veut dire la même chose. Donc, ce sont des espèces qui sont piégées, donc elle pâtit encore un petit peu de ça. Vous avez cité la belette. La belette est toute petite, elle fait une vingtaine de centimètres. Elle est capable, pour donner une idée, de suivre un campagnol dans son terrier pour aller le prédater. Donc, c'est vraiment le plus petit des carnivores. Elle est assez présente, mais pareil, elle a des fluctuations de population qui sont difficiles à estimer. Alors, le putois, c'est une espèce qui se porte très mal, parce qu'il est essentiellement lié aux habitats aquatiques et aux trames boisées, donc typiquement les haies. Et alors, comme tout à chacun sait, la présence des haies et de milieux humides, on ne sent pas les milieux qui se portent le mieux sur notre territoire. Et là, ce n'est pas que la métropole toulousaine, c'est vraiment l'ensemble du territoire français. Ce sont vraiment des deux habitats qui se portent très très mal. Et donc, le putois, qui est intimement lié aux habitats humides et aux haies, subit exactement les mêmes fluctuations et donc se porte très très mal. On peut l'avoir, on peut le trouver de manière très très localisée, mais ce n'est pas une espèce qui se porte bien. A contrario de la genette. La genette qui, à l'époque, enfin je parle de l'époque, c'est dans, on va dire, une cinquantaine d'années, était une espèce assez rare. Et en fait, tout simplement parce qu'elle est très discrète. On s'est aperçu qu'elle était beaucoup plus largement répartie que les autres et elle est assez bien présente. Elle est quand même liée, comme la martre, au milieu plutôt forestier, mais elle se suffit d'un aliment, d'une petite haie, d'un bocage. Elle peut être très facilement présente, beaucoup plus que le putois.
Le blaireau, lui, je pense, est bien présent.
Oui, le blaireau, c'est vrai que je l'ai oublié dans la liste. Le blaireau est, comme les autres, plutôt crépusculaire. Il est bien présent, mais il est alors c'est une espèce qui est très très localisée. On va vraiment l'avoir sur des patchs très particuliers du territoire. Il est vraiment lié à des endroits où on va avoir du relief qui est plus ou moins marqué pour qu'il puisse installer son habitat. Ça me permet de faire un petit parallèle. En fait, toutes ces espèces, elles ne peuvent pas être présentes si elles ne peuvent pas gîter. On se pose toujours la question de savoir comment ça se fait que cette espèce est présente ou absente. En fait, c'est toujours lié à deux à trois éléments purement biologiques. C'est que pour qu'une espèce soit présente, il faut qu'elle puisse installer un gîte, un terrier, un endroit où elle peut se reposer et élever ses jeunes. Il lui faut trouver de la ressource alimentaire et il lui faut trouver des partenaires. Donc, c'est vraiment les trois éléments qui vont faire que ces espèces sont présentes ou pas. Donc, si une espèce est moins bien répartie, bah, c'est qu'un des trois éléments se retrouve en défaut. Si elle n'est pas présente, c'est qu'un des trois éléments n'existe pas. Donc, c'est vraiment très basique. Donc, pour le blaireau, on va avoir des endroits. Alors, ici, dans le sud de la France, on est une zone un petit peu collinaire. Donc, on a du relief marqué. Donc, on va avoir du blaireau qui va être présent. Au niveau de l'espace périurbain, on va beaucoup moins voir cette espèce parce qu'elle va avoir une incapacité à gîter, tout simplement.
Alors d'autres rongeurs ou prédateurs auxquels on pense pas toujours, mais qui eux sont bien présents et qui sont liés au milieu aquatique cette fois-ci, qu'est-ce qu'il en est des populations de ragondins, de rats musqués et de loutres, puisque la loutre d'Europe est bien présente sur le territoire de la métropole toulousaine?
Tout à fait. Alors, le ragondin et le rat musqué sont des rongeurs. La loutre est un carnivore qui peut prédater, manger du ragondin et du rat musqué. Donc, le ragondin et le rat musqué sont des espèces qui ont été introduites en France au siècle dernier. Elles sont bien présentes parce que ce sont des espèces qui se suffisent d'espaces qui sont très artificialisés et très dégradés. Donc, en fait, elles ne sont pas du tout dérangées par l'urbanisation et les dégradations liées à l'urbanisation. Donc, elles sont très présentes sur les plans d'eau, sur le canal du Midi, sur des eaux plutôt lentes, plutôt stagnantes, puisque ce sont deux espèces qui sont plutôt herbivores. Donc, elles ont des besoins alimentaires qui sont facilement
Satisfait.
satisfaits. Voilà, tout à fait, merci. La loutre, elle, c'est un exemple parfait de ce qui peut arriver pour chacune espèce quand on la laisse tranquille. La loutre, c'était une espèce qui était chassée et qui était encore classée nuisible, alors je ne sais plus en quelle année, on va dire au siècle dernier. Et suite à sa mise en protection, c'est une espèce qui a largement recolonisé le territoire et de manière totalement naturelle. Donc nous, en région Occitanie, on avait l'espèce qui était présente sur le pourtour atlantique, sur les contreforts du Massif central et en bordure des Pyrénées. Et à partir de ces bastions de refuge, elle a pu recoloniser l'ensemble du territoire où elle est présente sur quasiment toute l'Occitanie, à part deux, trois endroits où elle est encore en cours de recolonisation, notamment justement en zone périurbaine de Toulouse. Elle est assez bien présente. Mais à Toulouse, elle est présente sur la Garonne. Donc effectivement, elle passe sur le corridor garonnais et pour la voir, par contre, c'est très très compliqué parce que c'est une espèce nocturne. Donc nous, on se contente des indices de présence.
Bah, ce sont les traces et
Alors,
puis ce qu'on appelle les épreintes, quoi, les excréments en fait.
tout à
Hein.
fait,
C'est comme ça
tout à
qu'on
fait.
les repère, mais elles sont bien présentes au cœur même de Toulouse, qui pourra étonner peut-être certains de nos auditeurs. Alors il y a deux espèces dont nous n'avons pas parlé, qui ne bénéficient pas forcément de la même cote de popularité auprès des citoyens, la chauve-souris et le hérisson. Alors qu'est-ce qu'il en est d'abord pour le hérisson? On tire la sonnette d'alarme sur la baisse des populations de hérissons en France depuis des décennies. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur notre territoire?
De la même manière que sur l'ensemble du territoire français, le hérisson se porte moyennement bien. En fait, le problème, c'est qu'il pâtit de différents éléments. Il va pâtir du cloisonnement des jardins qui va l'empêcher de pouvoir trouver sa nourriture ou des partenaires, donc qui vont le bloquer, qui peuvent aussi le bloquer sur des axes routiers et donc augmenter le risque de mortalité. Donc lui, c'est vraiment ces éléments, les deux éléments importants. Ensuite, il va y avoir le hérisson est insectivore, donc à partir du moment où il va se nourrir d'insectes, tout produit chimique, enfin tout ce qui va être insectifuge, va avoir un effet direct sur les hérissons. Donc on peut avoir aussi une problématique de toxicologie sur cette espèce. Effectivement, le hérisson se porte moyennement bien. Le fait est que c'est une espèce qui est diurne, donc elle est visible. Donc à partir du moment où on peut voir des individus, on peut avoir l'impression que l'espèce se porte bien, au contrario de la loutre qu'on ne voit pas parce qu'elle est nocturne. C'est le problème en fait de notre rapport à notre environnement, où on va se focaliser sur vraiment nos premiers sens, c'est-à-dire la vue, et avoir un ressenti direct sur ben, je vois cette espèce, donc elle est présente, je ne vois pas cette espèce, donc elle est absente. Et c'est vrai que pour le hérisson, c'est un petit peu, on va dire, comme un iceberg, on voit le haut de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on l'espèce est présente, donc on la voit, mais en fait, il y a pas mal de soucis sous-jacents. Et c'est vrai qu'à l'association, ben, mon collègue que vous avez reçu précédemment, Mike, s'occupe beaucoup d'un programme du hérisson dans mon jardin pour justement favoriser le déplacement de l'espèce dans les jardins et éviter l'utilisation de produits contre les limaces, contre les escargots qui vont intoxiquer les individus.
Et les
Et vous avez
chauves-souris?
parlé des chauves-souris. Ouais.
Oui.
Alors les chauves-souris, la problématique, c'est qu'on dit les chauves-souris comme on dit les carnivores. Mais quand on parle des carnivores, on fait tout de suite le distinguo entre la belette, le chat forestier et le renard, par exemple. Ben, les chauves-souris, c'est pareil. En fait, on a une trentaine d'espèces. Donc dans ces trentaines d'espèces, on va avoir un distinguo très fort entre la pipistrelle commune, par exemple, qui se porte très très bien sur la métropole, et les rhinolophes, pour ne citer qu'eux, qui du coup ont un état des populations qui en bien moindre état, parce que simplement, ce sont des espèces qui ont une écologie totalement différente. Alors, les chiroptères, c'est sûr qu'on va les rassembler parce qu'elles ont une écologie qui est similaire, avec une utilisation d'ultrasons, elles sont toutes insectivores et elles vivent la nuit, pour ne citer que ça, mais c'est vrai qu'entre la pipistrelle commune qui gîte dans des simples anfractuosités au niveau de la ville, par exemple, et qui du coup a aucune difficulté à trouver de quoi se loger, et puis qui va chasser les moustiques, les papillons nocturnes au gré des lampadaires, les rhinolophes qui ont besoin d'absence de lumière, donc d'une trame noire qui est plutôt en continu, avec une trame forestière aussi bien connectée, et des espèces d'insectes. Bon, alors là, pour le coup, ça va bien, mais en fait, lui, la problématique, ça va vraiment être la trame noire qui est discontinue sur la métropole, et la disponibilité en gîte, parce que lui, il recherche plutôt des cavités, des grandes cavités qui peuvent être des caves, bon, alors, les grottes, il n'y en a pas trop dans la métropole, mais voilà, ça peut être au niveau des cavités et des greniers, des espaces, en fait, de grands espaces où il va pouvoir installer des colonies l'été.
Alors, on va parler maintenant des espèces qui sont apparues ou réapparues dans la métropole toulousaine au cours des 10-15 dernières années. On a déjà parlé de la loutre d'Europe, hein, qui a recolonisé petit à petit les cours d'eau, fleuves, rivières et leurs affluents de notre région. Il y a un animal dont on a constaté récemment des traces en périphérie de la métropole toulousaine, voire déjà dans la métropole toulousaine, c'est le castor d'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors effectivement, le castor d'Europe, c'est une découverte. C'est une espèce qui recolonisait tranquillement ses anciens bastions occitans à partir du Tarn. Et elle était arrivée l'année dernière sur la confluence avec la Garonne. Et là, très récemment, on l'a découverte sur l'Ariège et la Garonne, donc en amont de Toulouse, sur le territoire de la réserve naturelle régionale de confluence Garonne-Ariège. Donc là, il y a plusieurs individus, plusieurs familles qui sont installées. Malheureusement, je ne peux pas encore vous dire grand-chose pour la simple raison qu'on est en pleine investigation, c'est-à-dire qu'on est en train de vérifier si la présence de l'espèce est ancienne ou pas, si elle est vraiment récente ou si elle est ancienne, vérifier si c'est bien du castor d'Europe, donc le castor fibère, de vérifier un petit peu quels sont les noyaux installés. Comme c'est une information très récente, on est vraiment en cours de recherche d'informations. Donc pour le moment, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est bien présent en amont de Toulouse, essentiellement sur le territoire de la réserve, et puis va même un petit peu plus largement jusqu'aux portes de Toulouse.
Oui, ça veut dire que si sa présence est confirmée, il n'y a pas de raison que, comme la loutre, il ne recolonise pas petit à petit l'aval aussi de la zone que vous venez de décrire et qu'on en retrouve dans Toulouse et même après sur les communes à l'aval de Toulouse.
Oui, alors à la différence de la loutre est un animal qui est capable de bondir, de grimper. Elle a des capacités locomotrices beaucoup plus développées que le castor. Et à Toulouse, on a au niveau du Bazac, on a un barrage qui est quand même assez bloquant pour le castor. Donc pour le moment, là, on est vraiment en train d'investiguer comment le castor est présent en amont et est-ce qu'il a réussi à passer ou pas, ou comment il est arrivé. Donc voilà, on n'a vraiment pas toutes les informations pour le moment. Mais la loutre a des capacités de colonisation qui sont plus fortes que le castor. Après, ils ont pas le même régime alimentaire. Mais pour avoir le castor à Toulouse, la problématique, même la loutre, en fait, la plupart du temps, elle est vraiment en passage sur la commune, parce que pour que ces espèces soient présentes, il leur faut vraiment des zones de quiétude très très fortes. Et pour le castor, une zone arborée aussi très présente, parce
Et
que
large donc.
Voilà, parce que lui se nourrit d'arbres, donc il lui faut quand même pas mal d'arbres pour pouvoir s'alimenter. Donc je pense que dès qu'on verra des arbres
Rongé.
rangés, voilà, en bordure de Garonne, tout le monde aura vite l'information qu'il est présent, qu'il est installé sur la ville, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas.
Vous avez évoqué le chat forestier tout à l'heure. Alors, on sait qu'il a été signalé dans le Tarn, par exemple, pas très très loin de la région toulousaine. Est-ce qu'un jour, on pourrait observer des chats forestiers, par exemple, dans la forêt de Boucone?
Alors, je l'espère bien, c'est très fortement probable. À quelle échéance, ça, je suis incapable de vous le dire. C'est vrai que maintenant, l'espèce est confirmée. Alors, autour de Toulouse, elle est confirmée au niveau de la montagne noire. Les zones les plus proches, ça reste la montagne noire. Les territoires audois, même en bordure de Vert-Fendeuil, en bordure de Castelnaudary. Et de l'autre côté, sur le sud du Gers. C'est une espèce qui est en cours de recolonisation, comme la loutre, sauf que elle, ses corridors, ça va être plutôt les corridors boisés. Donc elle est en cours de recolonisation au niveau des forêts de plaine, donc ce qui est très intéressant pour l'imaginer un jour à Boucone. Alors il y a encore des trous dans la raquette assez importants autour de Toulouse pour qu'il puisse être présent sur la forêt de Boucone. Et en fait, là, on travaille vraiment pour essayer de reconnecter tous ces corridors forestiers et ces maillages de haies, de réaliser du maillage d'haies. Alors vous le voyez, chacun le voit sur les replantations qui sont faites de haies autour des parcelles agricoles. Et c'est vrai que c'est vraiment l'élément qui va permettre à la plupart des espèces de pouvoir réinvestir les secteurs. Alors c'est vrai qu'on vous parlait tout à l'heure de la présence des espèces, c'est vraiment important de rappeler que la plupart de ces espèces sont présentes quand on leur fiche la paix,
Mais
quand elles
oui.
sont plus chassées et quand on leur laisse l'espace.
Oui, quand il leur faut des zones d'absence. Et c'est ce que parfois les gens ont peut-être du mal à comprendre. Une autre question qui me vient comme ça, qui est peut-être complètement saugrenue, parmi les espèces qui sont réapparues sur notre territoire depuis une trentaine d'années, il y a le loup. Est-ce qu'il serait possible qu'un jour, un individu issu de la dispersion puisse passer sur le territoire de la métropole toulousaine? Alors, pas s'y installer, bien sûr, mais y passer. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
Je pense que c'est même déjà fait, parce
Oui.
que le loup a une capacité de dispersion absolument énorme. Comme il se disperse plutôt de manière nocturne, il va passer autour de la métropole et je pense que c'est déjà fait, oui. Il est déjà passé. Alors là, il est connu en passage dans l'Auragais. L'Auragais, c'est pas très loin de Toulouse. Et des individus en dispersion, c'est les individus qui sont les plus difficiles à identifier parce qu'ils passent vraiment inaperçus. Donc oui, je pense que il y a de fortes chances que ce soit déjà fait.
On peut donc tomber sur un loup de façon complètement évidemment hasardeuse en se baladant dans une forêt ou en bordure d'une forêt sur
Alors
les communes de la métropole.
ça c'est peu probable parce qu'il a quand même une ouïe beaucoup plus fine que la nôtre
Et un
et
odorat
il va
aussi.
nous et un odorat aussi, donc il va nous détecter
De très
très
loin,
rapidement et
ouais.
en fait il va se planquer. Mais comme le font déjà, si vous voulez, quand on se balade en forêt de Boucone, il y a déjà pas mal d'animaux qui sont présents et on ne les voit pas. Donc la plupart du temps, ils ont vraiment le comportement de se camoufler, de se planquer en attendant que le danger que l'on représente passe. Donc le loup, c'est la même chose.
Une chose pour terminer, que j'ai évoquée un petit peu dans mon introduction, ce sont les dégâts que peuvent faire certaines espèces de mammifères. Et là, vous savez auxquels je pense, les sangliers, les chevreuils, sur les cultures ou sur certains espaces boisés. Est-ce que, sur les territoires de la métropole toulousaine, il y a des problèmes? Récemment encore, après les inondations, là, il y avait des sangliers qui avaient été repérés en bordure du périphérique, ce qui faisait craindre des risques de collision avec des véhicules. Est-ce que il y a des raisons de s'inquiéter pour ça sur le territoire de la métropole toulousaine?
Ben, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en fait, au niveau de l'espace, les sangliers, ils ont été aperçus après l'inondation, c'est parce que les inondations ont limité leur espace. Et comme l'urbanisation limite déjà leur espace, en fait, ils se retrouvent dans une espèce de toute petite cage. Donc c'est pour ça qu'ils sont visibles. Ils sont pas là pour leur grand plaisir parce que ça leur provoque un grand stress, une grande peur d'être entourés comme ça de voitures et avec un risque de mortalité très fort pour eux. Donc les dégâts, je vais pas être la meilleure personne pour en parler parce que la difficulté pour parler de ça, c'est quelque chose, on va avoir un prisme très anthropocentrique et finalement, on va regarder un petit peu ce qui va nous intéresser. Mais ces espèces-là, comme elles n'ont plus de prédateurs présents, on va dire qu'elles sont limitées par l'urbanisation, par nos activités. Donc, c'est nous qui exerçons une pression de prédation sur elles. Mais la meilleure pression de prédation qu'il pourrait y avoir, c'est justement la présence du loup. Si cette espèce était un petit peu plus présente, en fait, on
Les
aurait
populations se
une régulation des...
se
Oui,
réguleraient
voilà.
d'elles-mêmes.
tout simplement.
Entre elles.
Donc en fait, on en revient toujours à la même question de base, c'est quel espace on est capable de laisser aux espèces. On parle de vouloir de la biodiversité, on parle de la sixième extinction, on parle de notre volonté d'avoir un environnement de qualité, un paysage de qualité, mais on a des comportements et des activités, des actions qui sont complètement schizophrènes par rapport à ce qu'on voudrait. Donc tant qu'on n'aura pas cette cohérence-là, en fait, on n'arrivera pas, à part certaines espèces qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu parce qu'elles ont des capacités exceptionnelles, les autres, elles sont en train tout doucement de régresser et de disparaître.
Et la prise de conscience commence d'abord par celle des citoyens.
Elle est de différentes entre. Oui, tout à fait. Chacun peut accepter de coexister avec une espèce avec laquelle elle n'a pas l'habitude, apprendre à la découvrir, se rendre compte que finalement, il n'y a pas forcément tant de désagréments que ça. Et puis souvent, ces espèces ne font que passer. On peut aussi, par rapport aux rongeurs, favoriser la protection plutôt que la destruction. Donc, bloquer son habitat, les endroits qui sont fragiles plutôt que détruire les espèces. On a tout un tas de carnivores qui sont là aussi pour exercer une pression de prédation sur ces espèces-là. Donc c'est vraiment un rapport à notre espace qu'il faut réévaluer à travers l'urbanisation, à travers le citoyen lambda, effectivement, à travers les politiques architecturales, etc.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il faut conclure. Merci beaucoup, Manu Jacquot, d'avoir dressé ce tableau de la situation des mammifères et de leur population dans la métropole toulousaine. Il y aura sans doute encore quelques idées reçues qui auront été mises à mal au cours de ce numéro. Je répète, si on veut préserver et protéger la faune sauvage, il est important avant tout de bien la connaître. C'est aussi pour ça que nous avons souhaité faire cette série d'émissions. Je rappelle l'adresse du site web de l'association Nature en Occitanie, www.natureo.org. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.